retour pour la suite de notre émission consacrée au trouble 10. Nous sommes avec Lia afin d'évoquer avec elle son reportage. Bonjour Lia, peux-tu te présenter brièvement ?
Bonjour, oui bien sûr. Alors je m'appelle Lia Bonio, je suis en première G5. J'ai comme spécialité histoire géopolitique, sciences politiques, littérature, philosophie et SES.
Comment as-tu eu l'idée de ce reportage ?
Eh ben, tout simplement parce que moi-même je suis 10, donc je suis dyslexique dysorthographie, et dans ma famille, eh ben, il y en a aussi beaucoup, donc je trouve ça très important d'en parler.
Et donc, en tant que 10, comment as-tu vécu ta scolarité ?
Eh bien, je crois que c'est en CP qu'on a découvert que j'étais 10, mais à cette époque-là, l'orthophoniste avait dit que ce serait que en CE1 que je pourrais savoir si je l'étais vraiment. Donc du coup, ma mère savait que c'était fort probable que je l'ai, et donc du coup, elle avait bien prévenu le professeur qu'il fallait faire attention et tout ça. Et le professeur a dit qu'il en tiendrait compte, mais au final, il a vite vu que j'avais des problèmes de lenteur et il comprenait pas pourquoi j'arrivais pas à faire aussi vite que les autres. Et donc du coup, il a commencé à essayer de me sanctionner pour faire punition-récompense pour arriver à ce que j'aille plus vite. Mais en fait, ça a changé strictement rien. Et au bout d'un moment, je me souviens pas beaucoup, mais ma mère m'a raconté que je voulais plus y aller, je pleurais pour pas y aller. Et après, elle est donc retournée voir le professeur qui lui a expliqué que c'était anormal tout ça. Et elle lui a dit qu'elle l'avait bien prévenu et que c'était vraiment pas sympa d'avoir pas pris en compte ce qu'elle avait dit. Et au fil des années, j'ai plus eu vraiment d'autres problèmes avec les professeurs qui en ont vraiment bien pris en compte le fait que j'avais des problèmes. Et puis à partir du CE1, j'étais diagnostiquée dyslexique dysorthographique, donc c'était plus un problème de papier. Après, j'ai mis beaucoup de temps à savoir lire et à lire bien et vite comme je lis maintenant.
Et du coup, aujourd'hui, comment tu te sens ?
Eh ben, je sens que j'ai à peu près réussi à surmonter certaines difficultés. Après, il y a toujours le problème de lenteur dans l'écriture, qui est beaucoup moins qu'avant, mais qui est toujours là. Et donc, du coup, j'ai toujours besoin du temps imparti par le tiers-temps, évidemment. Mais je suis beaucoup mieux au niveau de la lecture, où vraiment, maintenant, je peux lire un livre de 500 pages en 2 jours, donc ça va. Et oui, j'aime. En fait, le truc, c'est que j'aime beaucoup lire. Le fait que j'aime beaucoup lire, ça m'a beaucoup aidée au niveau de la dyslexie. Et aussi parce que ma mère m'a beaucoup lu des histoires, et donc maintenant, j'arrive beaucoup mieux qu'avant.
Donc tu es allée voir une orthophoniste, est-ce que ces séances t'ont aidé ?
Oui, bien sûr. Et maintenant, je vois plus beaucoup l'orthophoniste, mais oui, au début, c'est elle qui m'a donné pas mal de méthodes. Par exemple, le B et le D, que je confondais beaucoup et que je confonds des fois encore maintenant. Elle m'a donné des méthodes pour savoir lequel était l'un et lequel était l'autre. Par exemple, avec un dessin d'un B pour une maman avec son bébé, et le dessin d'un monsieur avec un dos pour le derrière, quoi. Et donc, du coup, ça m'a vraiment beaucoup aidé, les moyens mémotechniques pour se souvenir. Et évidemment, je retourne la voir pour faire des bilans orthophoniques pour voir si j'ai toujours besoin des aménagements et aussi pour savoir où j'en suis au niveau de la compensation. Et ça m'a bien aidé. Je suis allée voir un orthoptiste pour voir si c'était pas du coup un problème de deuil avant de dire que j'étais dyslexique, dysorthographique. Je suis allée voir beaucoup de fois parce que j'arrivais pas à suivre la ligne. Je loupais des lignes en fait quand je lisais. Donc il y a eu vraiment un travail sur l'œil pour que je puisse suivre ligne après ligne. Aussi, en plus de l'orthophoniste.
Donc, t'as décidé de faire un reportage sur ces troubles. Qu'est-ce que tu as appris ?
J'ai appris qu'il y avait quand même pas mal de gens qui se posaient des questions sur les 10 et qui savaient pas grand-chose, en fait. Donc, on n'en parlait pas assez. Donc, c'était pas mal que je fasse une émission là-dessus. Et surtout que, ben... En fait, on prend de plus en plus en compte ces problèmes et du coup que c'est vraiment bien d'en parler.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement étonné ou fasciné ?
Un truc qui m'a particulièrement étonné ? Oui, quand je suis allée interviewer donc une ancienne élève du lycée, c'est donc aussi ma tata. Elle m'a expliqué que en fait quand elle était petite, que ses parents avaient remarqué qu'elle était 10. Elle lisait un livre avec la classe et donc avec sa mère, elle continuait à le lire. Et en fait, elle avait appris par cœur le texte, elle lisait pas. Et sa mère a loupé une page et elle a continué à lire comme si c'était la page qui était coincée entre les deux. Et donc du coup, je trouve ça quand même super super fascinant qu'un enfant puisse faire ça en fait. Puisse apprendre par cœur et du coup faire qu'on voit pas qu'il ait des difficultés.
Tu tenais par ailleurs à lire un texte. Est-ce que tu peux nous le présenter ?
Oui. En fait, c'est un livre que je trouve particulièrement bien fait et beau sur donc une dyslexie qui s'appelle Comme un poisson dans l'arbre. Le titre reprend la citation d'Albert Einstein qui disait. Un poisson ne sait pas grimper aux arbres, mais ça ne veut pas dire qu'il est stupide pour autant. Et je trouve ça vraiment bien représentatif des différences avec les 10, parce que on peut se trouver extrêmement inintelligent comparé aux autres quand on comprend pas pourquoi on n'arrive pas à faire les choses que les autres arrivent naturellement. Ce livre, il parle d'une petite fille qui s'appelle Ali. Et qui donc est dyslexique mais qui le sait pas. Et ça, il y a un nouveau prof qui arrive dans son école. Elle sait pas lire, il faut savoir. Ce professeur donc va comprendre qu'elle a un problème de lecture et va vouloir l'aider. Je trouve ça très bien au niveau de la prise de conscience des professeurs.
Il t'a ému ce texte ? Il t'a touché ce livre ?
Oui, particulièrement parce que la petite fille me fait un peu penser à moi, mais c'était quand même moins pire pour moi parce que mes parents, ils étaient quand même là pour me soutenir vachement comparé à elle, qui en fait vit à un moment où les 10 ne sont pas encore diagnostiqués, donc elle le sait pas et sa mère comprend qu'elle arrive pas trop à lire, mais elle... ne sait pas en fait ce qui se passe elle non plus. Mais oui, il est très bien fait.
On va désormais écouter Lia nous lire un passage du livre Comme un poisson dans l'arbre de Linda Mulally Hunt.
Les grands esprits pensent autrement. Un matin, Monsieur Daniels a l'air de très bonne humeur au moment de nous faire une annonce. Aujourd'hui, mes fantasticos, je vous propose de faire une parenthèse dans notre séance d'éducation civique pour parler de personnes célèbres. Des gens que certains d'entre vous connaissent sûrement. Il sort plusieurs portraits et les dispose sur le bord du tableau. Les images couvrent presque toute la largeur et je redoute qu'il s'agisse d'une évaluation ou qu'il nous demande d'écrire un texte sur la personnalité qu'on préfère. Monsieur Daniel a l'air électrisé. Je vais citer leurs noms et vous me direz si vous savez pourquoi ils sont connus, ça marche ? Pas besoin de lever la main, parlez fort, c'est tout. Waouh, il nous demande de transgresser la règle numéro 1 des professeurs. Il montre la première photo. Thomas Edison. Minute, je sais qui c'est. Je réponds d'une petite voix. Il a inventé l'ampoule ? Très bien, Ali. Mais Si tu connais la réponse, tu dois la proclamer haut et fort. Je m'imagine aussitôt sur une estrade, devant des milliers de gens, les bras levés, en train de proclamer ma réponse. « Et celui-ci, qui le connaît ?» demande Monsieur Daniels. C'est Max qui répond. « Alexander Graham Bell, c'est l'inventeur du téléphone. J'ai fait un exposé sur lui. »« Excellent, » dit Monsieur Daniels. Le suivant, c'est George Washington, et tout le monde le connaît. « Henry Ford, » poursuit Monsieur Daniels. « Il a inventé la voiture, » je proclame. « Eh bien, c'est le fondateur de la Ford Motor Company, en effet, mais il n'a pas inventé la voiture. » Il a perfectionné la ligne d'assemblage qui était un moyen très ingénieux de produire en série un grand nombre de voitures dans un laps de temps très court. On passe au suivant, Albert Einstein. Il annonce son nom comme s'il annonçait un candidat d'un jeu télévisé. Albert lève la main. Oui Albert ? Albert Einstein est né en Allemagne le 14 mars 1879. On le considère comme l'esprit le plus avancé dans les domaines de la physique, des mathématiques et de la philosophie. Il a révolutionné les sciences et avec ses idées. Mon père dit que les sciences avant lui étaient un pantin de bois comme Pinocchio et qu'Einstein les a transformés en vrais petits garçons. « Il dit ça ?» demande Monsieur Daniels en riant. « C'est très intelligent. Ton père est-il un scientifique, Albert ?»« Oui, monsieur. Il m'a appelé Albert en hommage à Albert Einstein. C'est pour ça que je sais beaucoup de choses sur lui. » Monsieur Daniels revient vers le tableau où sont alignés les portraits. « Mon petit doigt me dit que le père d'Albert... est un scientifique comme on les imagine. » On continue avec les autres portraits. Léonard de Vinci, célèbre peintre auteur de la Joconde, lui aussi un grand inventeur. Pablo Picasso, un autre peintre célèbre qui a créé un style moderne jamais vu auparavant. Hans Christian Andersen, auteur talentueux de contes pour enfants. Yopi Goldberg, comédienne et actrice hilarante. Agatha Christie, célèbre auteur de romans policiers. Mohamed Ali, champion du monde de boxe poids lourd. John F. Kennedy, 35e président des États-Unis. Winston Churchill, premier ministre de l'Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Son intelligence et son cran ont empêché les nazis de conquérir l'Angleterre. En fait, tous ces gens avaient du cran à revendre. Du cran, ce mot me plaît. John Lennon, l'un des fondateurs des Beatles. Walt Disney, créateur de Mickey Mouse. Lorsqu'il a terminé, Monsieur Daniels fait un pas de côté. On peut dire que l'on a ici une belle brochette de talents, n'est-ce pas? Qui dans cette classe oserait prétendre que l'une de ces personnes était stupide? Nous secouons la tête. Albert nous a fait un excellent résumé des capacités intellectuelles d'Albert Einstein. Mais saviez-vous qu'il s'est fait renvoyer d'une école quand il était petit? Son dossier mentionne une lenteur d'esprit anormale, retardant ses apprentissages. Il était incapable de mémoriser les mois de l'année. Il avait même du mal à lacer ses chaussures. Pourtant, il était déjà et il reste le plus grand des cerveaux de tous les temps. Je me souviens que moi aussi j'avais du mal à lacer mes chaussures. Je regarde fixement la photo de Einstein, avec ses cheveux blancs dressés sur sa tête comme s'il avait mis les doigts dans une prise de courant. Est-il possible qu'il ait pu découvrir le voyage dans le temps et ne pas connaître les mois de l'année? Monsieur Daniels continue. Certains disent que John Lennon était l'un des musiciens les plus talentueux et les plus brillants que l'on ait jamais vu. Il s'avance pour montrer la photo de Walt Disney. Et ce type-là, saviez-vous que l'un de ses professeurs lui avait reproché de ne pas être assez créatif? Et il a fait un pas de plus. Et Henry Ford, il comprenait d'instinct le fonctionnement d'un moteur. Il savait sans l'avoir étudié. Il se dirige vers la fenêtre. Il savait très précisément comment les pièces s'assemblaient. Et ne l'avait jamais appris à l'école, mais il était tellement doué avec les machines qu'il a même été l'ingénieur de Thomas Edison pendant quelque temps. Il a construit sa première voiture lui-même, en fixant un moteur de sa fabrication entre deux vélos. Et avec sa technique de production en série, grâce aux lignes d'assemblage, il a créé un nouveau monde. Il revient vers le tableau. « Saviez-vous ce que tous ces gens avaient en commun ?» demande-t-il à la classe. Puis il s'arrête devant mon bureau et me regarde droit dans les yeux. On pense qu'ils étaient tous dyslexiques. J'en ai des frissons dans le dos. En fait, j'ai des frissons partout. Il sourit. Eh oui, quand ils étaient enfants, ils avaient des difficultés pour lire, même les mots simples. D'autres indices ont amené de nombreux spécialistes à penser qu'ils souffraient de dyslexie. Nous savons pourtant à présent qu'ils étaient loin d'être stupides, mais que leur cerveau fonctionnait autrement. Et c'est une chance parce que sans ça, nous n'aurions sans doute pas de téléphone, ni d'ampoule électrique, ni d'œuvre d'art révolutionnaire. Son sourire s'accentue. J'oubliais, Mickey n'existerait pas non plus.
Lia, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose?
Les élèves qui sont 10, il faut surtout pas qu'ils baissent les bras et qu'ils se sentent rejetés parce que sinon, c'est sûr qu'ils vont jamais y arriver. Il faut qu'ils aillent trouver les personnes qui peuvent les aider et surtout qu'ils se sentent pas trop différents parce que c'est très important de se sentir accepté.
Ça se voit que tu as l'air passionné, ça fait plaisir. On écoute tout de suite ton reportage que tu as effectué auprès de plusieurs élèves et ou personnels du lycée.
Bonjour, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour, alors je m'appelle Lucas Forestier et je suis élève en terminale bac pro système numérique au sein du lycée de Givors.
D'abord, je voudrais savoir si tu peux nous expliquer ton trouble.
Alors, moi je suis dyslexique, dysorthographique et dyscalculique. Donc, ce qui fait que j'ai des difficultés, notamment dans les matières de français et mathématiques.
Comment est-ce que tu as découvert que tu étais 10 ?
Alors, tout simplement, on voyait que j'avais des difficultés à l'école, puis j'essayais, malgré moi, de travailler du mieux que possible. Mais ma mère s'est bien rendue compte que j'avais beaucoup de difficultés comparées aux autres élèves à travailler. Donc, on a pris des rendez-vous chez l'orthophoniste. Après une ou deux séances, elle a vite su déterminer quel trouble 10 j'avais.
C'était vers quel âge ?
Ça devait être... il me semble que c'était en CE1, CM1. Je ne sais plus quelle année, mais ouais, ça devait être en CM1. Donc, ouais, ces environs-là.
D'accord. Est-ce que, du coup, vous avez eu un suivi ?
Ouais, j'ai eu un suivi jusqu'en 3e, il me semble, ou 4e. Et du coup, j'ai eu des séances toutes les semaines. Puis, à un moment donné, on réduisait les séances à 3 ou 4 séances toutes les vacances.
Du coup, quel problème ça vous a posé dans la scolarité ?
Ça m'a surtout posé des problèmes, par exemple, pour apprendre mes leçons ou... pour surtout travailler, j'avais du mal à rester concentré, mais ça, c'était pas spécialement lié à mon trouble 10, mais j'avais quand même lié à ça, vu que j'avais des problèmes pour comprendre et que j'avais plus de mal à comprendre, je restais moins concentré parce que je me décourageais vite. Donc, à force, j'ai dû m'obliger à me forcer à travailler, et donc forcément, ça me demandait plus d'efforts que certains élèves pour réussir à l'école.
Est-ce que vous avez des aménagements ?
Alors oui, j'en ai bénéficié par exemple au brevet. J'ai eu notamment des dictées aménagées ou des tiers-temps et j'en bénéficie toujours maintenant au lycée. Par exemple, pour le bac, je sais que je vais avoir des tiers-temps lors des épreuves.
Avec le recul, est-ce que dans les classes, par exemple en primaire, vous auriez eu besoin d'un aménagement spécifique que vous n'avez pas eu ?
Alors que j'ai pas eu, pas spécialement, parce que déjà quand j'étais petit, j'avais des aménagements tels que des dictées aménagées ou même encore des tiers-temps. Après, il y a certains troubles 10 qui pourraient demander certains aménagements différents que d'autres, mais sur le moment, je saurais pas vous dire lesquels spécialement.
Bonjour, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter ?
Alors bonjour, je me présente, Johanna Gringer-Char, j'ai 29 ans et je suis ingénieure conception assistée par ordinateur.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez découvert que vous étiez dyslexique ?
Alors, c'est pas forcément moi qui a découvert, c'est mes parents. Alors, en fait, c'était, je crois que j'avais 6 ans, j'étais au CP. Et en fait, ma mère et mon père me faisaient faire les devoirs, comme tout enfant. Et en fait, je devais lire un livre qu'on avait, donc je lisais l'histoire. Et en fait, ma mère, elle a tourné une page en trop. Et en fait, j'ai commencé à lire à dire le texte, mais en fait, je le lisais pas, je l'avais appris par cœur. Donc c'était la page qui était pas qui avait qui était entre les deux. Et donc ma mère, elle disait, mais je comprends pas, tu lis quoi? Ça avait rien à voir avec ce qui était écrit. Donc en fait, après, elle s'est rendue compte que c'était la page qui était bloquée entre les deux pages et que en fait, j'apprenais par cœur et que en fait, si on me forçait à lire, bah, que je savais pas très bien lire, quoi. Donc après, bah, elle m'a emmenée chez l'orthophoniste pour faire un bilan et pour voir bah, si j'étais dyslexique ou pas. Et donc j'étais dyslexique et dysorthographique aussi. J'avais les deux.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre trouble?
Alors oui, alors j'en ai plusieurs. Alors moi, il y a plusieurs difficultés. Donc en fait, moi, j'ai du mal à déchiffrer ce que je lis, mais j'ai aussi du mal à écrire ce que je veux dire. Donc en fait, quand j'étais petite, je me confondais beaucoup les sons ou les lettres, essentiellement. Et après, avec l'âge, on va dire, c'était plutôt des problèmes de lenteur de lecture. Ouais, mes mots, je les écrivais pas forcément bien, je me confondais les sons. Mais bon, maintenant, j'en fais un peu moins. À force de lire, d'écrire, ça fait un peu moins de troubles. Mais quand je suis fatiguée, j'en ai un petit peu, hein, quand même, encore. Après, c'est à peu près tout pour mes troubles, je pense.
Est-ce que vous avez eu un suivi?
Alors oui, j'ai été suivie par deux orthophonistes. Alors une première orthophoniste de mon fin de CP jusqu'à mon fin de CE1, parce que mes parents m'ont voulu me changer parce que la personne ne convenait pas. Et ensuite, après, j'ai une orthophoniste de mon fin de CE1 jusqu'à ma terminale, une fois par semaine, 3 quarts d'heure. Et il y a juste en première et terminale où je faisais une fois tous les 15 jours.
Quel problème cela vous a posé dans votre scolarité?
Oula, pas mal. Bah, je vais dire surtout, en fait, c'est surtout pour lire les problèmes, les choses comme ça, ou dès qu'il y avait du texte, bah, en fait, je mets beaucoup plus de temps. Donc, c'est vrai que, par exemple, sur un DS ou voilà, un devoir où on a 2 heures de temps, et ben peut-être je vais mettre peut-être 3 quarts d'heure à lire déjà juste le texte, et donc en fait il me reste plus qu'une heure et quart à faire l'exercice, quoi. Donc c'est surtout ça qui a été difficile pour ma part. Après, bah, on apprend autrement, quoi. On arrive à. Bah, vu que je perdais du temps à lire, bah, je répondais beaucoup plus facilement, ça c'était bien. Et à l'oral, bah, j'étais plus à l'aise. Pour les questions, c'était mieux. Et bah, après, on va dire que la primaire a été plutôt plus difficile parce que bah, c'est là où on apprend à lire, à écrire. Donc là, c'était compliqué. Mais après, dès qu'il y a eu les bases, bah, ça s'est bien déroulé. Après, les autres problèmes que j'ai eus, on va dire, c'est plus au collège et lycée quand on nous demande de lire des livres pendant les vacances. Où en fait, bah, il faut lire un texte pendant, bah, un livre pendant 2 semaines. Bah, moi, je pouvais pas lire toute seule, c'était impossible. Donc souvent, j'avais de l'aide de mes parents pour pouvoir après pouvoir répondre aux questions. Sinon, j'aurais jamais eu le temps de le faire. Donc voilà mes petits soucis pendant la scolarité.
Je comprends tellement. Quels ont été vos aménagements du coup?
Alors en fait, j'en ai pas eu beaucoup, malheureusement, parce qu'en fait, quand moi on a su que j'étais dyslexique, c'était pas encore autant connu que maintenant. Par exemple, pour donner l'exemple, c'est qu'au collège, j'étais la seule de tout mon collège à être dyslexique, que maintenant t'en as entre 1 à 2 par classe, que moi j'étais vraiment toute seule, donc en fait on devait expliquer au professeur, à la direction ce que c'était, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément d'aménagement, il y a juste à partir du brevet et du bac où j'ai su que j'avais le droit à un tiers-temps. Donc, bah, je l'ai utilisé pour mes épreuves plutôt de français ou de langue, mais pour les restes des épreuves, je les utilisais pas parce qu'en fait, j'avais pris l'habitude de travailler autrement. Donc, j'ai eu un peu de tiers-temps, ouais, au bac et au brevet. Et après, si au lycée, mais ça, c'est plus. J'avais demandé de l'aide à des copines plutôt, c'est que bah, souvent, j'avais du mal quand la prof dictait, à tout écrire. Moi, c'était trop compliqué pour moi. Donc, en fait, souvent, je demandais des copies de copines pour faire des photocopies et rattraper chez moi, en fait. Voilà, un petit peu les astuces.
Avec le recul, est-ce qu'il y a un aménagement qui aurait pu vous faciliter la scolarité ?
Bah, je pense que le tiercement, si je l'aurais eu depuis le début, ça aurait peut-être aidé sur certaines épreuves. Je pense surtout sur tout ce qui est le français, les langues. Je pense qu'on aurait pu peut-être aménager d'autres choses, par exemple des dictées améliorées ou des choses comme ça. Parce que, bah, par exemple, les dictées, bah, j'avais toujours zéro, quoi. Donc, peut-être adapter les exercices ou des choses comme ça aurait pu aider. Après, bah... c'est déjà fait, donc maintenant, c'est pas grave, quoi. Mais oui, voilà, des petites améliorations d'exercice, je pense, ça aurait été bien, dans le bon sens.
Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Bah non, pas forcément. Bah après, ouais, par rapport à la dyslexie, je pense que bah, c'est plutôt un plus au final. Même si au début, quand j'étais petite, je le prenais un peu négatif parce que bah, tu te sens moins forte que les autres, etc. Mais je pense que ça m'a apporté plein d'autres choses. J'ai appris à travailler différemment et je pense que ça m'a créé un caractère assez fort grâce à ça. Donc moi, je suis plutôt contente maintenant et je pense aussi, surtout, c'est mon orthophoniste et je pense mes parents, mon entourage qui m'a aidée et je pense que ça, c'est grâce à eux que je suis allée aussi loin, donc... Moi, je suis contente.
Merci, voilà, c'est la fin.
Bonjour, je m'appelle Mathis Audin, je suis en bac pro SN, en système numérique en option risque et je suis en terminale. Mon trouble, c'est la dysphasie, donc c'est similaire à la dyslexique. Mon problème, c'est que quand je parle, j'ai des troubles de voix. J'ai du mal à parler, j'ai du mal à lire mes sujets.
Comment avez-vous découvert du coup que vous étiez...
Étant donné que la dysphasie, c'est très, on peut le voir très tôt dans l'âge enfant. Mes parents ont préféré que je voie un orthophoniste. Et l'orthophoniste a conclu que j'étais dysphasie et que j'avais des gros problèmes. Et j'ai dû faire 6 ans d'orthophoniste pour en arriver là.
Est-ce que vous avez eu du coup un suivi avec l'orthophoniste ?
Oui, durant ces 6 ans, oui. On a fait plusieurs bilans et pour l'instant, je ne suis pas retourné.
Quel problème, du coup, ça vous a posé dans votre scolarité ?
Souvent, le problème, c'est l'expression à l'oral. Des fois, je pourrais bafouiller lors d'une conversation. Et notamment, quand je lis un livre ou je regarde mes sujets, je prends plusieurs temps et plusieurs fois... la même phrase.
Est-ce que vous avez des aménagements par rapport à ça ?
Oui, j'ai des aménagements pour mes examens. Voilà. Et j'ai mes profs qui en fonction de ma maladie, m'aident à mieux comprendre mes sujets.
Avec le recul, quand vous étiez petit, est-ce qu'il y a un aménagement qui vous aurait particulièrement aidé ?
Oui, sans doute le plus le français. En français, généralement, quand il y avait les dictées, j'avais un aménagement pour les petits trous. Donc je devais juste remplir ça, ça m'aidait énormément. Et dans certaines questions, expressions écrites, des fois on m'éliminait des questions ou on modifiait mes questions. Enfin, ça donnait le même sujet, mais c'était pas la même phrase.
m'appelle Mathéo Riviri, je suis en 1G7 au lycée Aragon en voie générale et j'ai 16 ans.
Est-ce que vous pouvez expliquer votre trouble 10?
Alors moi je suis dyspraxique, donc en fait j'ai des problèmes d'écriture depuis le CP, je m'en suis rendu compte, donc j'écrivais mal. Et c'est vrai qu'on n'a jamais pris mon problème en compte jusqu'en 5e, où on s'est rendu compte que j'avais des problèmes.
Est-ce que vous pouvez donc nous expliquer comment vous avez découvert que vous étiez...
Et ben en fait j'arrivais jamais à me relire, et donc les professeurs n'arrivaient pas non plus à me relire. Et donc je suis allé voir un ergothérapeute en 5e, et là il m'a dit « oui, vous avez un trouble 10 ».
Ça a été comment le suivi d'ergothérapeute ?
Et bien en fait, j'ai fait une seule séance qui m'a permis ensuite d'avoir accès à un PAP, donc notamment un tiers-temps, qui m'a bien aidé pour le brevet.
Quel problème du coup ça vous a posé dans votre scolarité ?
Alors notamment l'écriture, c'était catastrophique au niveau de la relecture, et surtout je mettais du temps parce que si je devais m'appliquer, je perdais du temps et du coup c'était pas possible.
Est-ce que vous avez des aménagements du coup ? C'était quoi vos aménagements ?
Alors pour le brevet, ça a été un tiers-temps qu'à l'écrit, pas pour l'oral, et donc là pour le bac, j'ai tous les tiers-temps.
Avec le recul dans les classes inférieures, vous auriez eu un aménagement qui vous aurait facilité la plus ?
Oui, je pense sincèrement que si ma pathologie avait été découverte plus tôt, j'aurais pu y évoluer un peu plus.
Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter ?
Bonjour, je suis Monsieur Azam, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée Aragon.
Est-ce que vous proposez des aménagements pour les élèves 10 ?
Alors, les aménagements que je propose et que l'on propose dans l'établissement, en tout cas moi, à titre personnel, que je propose, c'est une trace écrite numérisée du cours et des exercices. Alors je mets ça à disposition des élèves 10, mais des autres aussi, sur un Padlet, qui est un mur collaboratif, qui a l'avantage que lorsque l'élève a l'adresse, il n'a plus besoin de code, il enregistre l'adresse de ce Padlet et il peut se connecter et avoir accès aux cours et aux exercices numérisés, plus des vidéos, des images, etc., depuis son téléphone ou depuis un ordinateur. Donc ça permet aux élèves qui ont eu du mal dans l'exercice de la prise de notes, eh bien, de pouvoir se référer à la trace écrite du cours, à des exercices, à des corrigés d'exercices. En fait, c'est fait pour que des élèves qui n'ont pas réussi à prendre en note soit un cours, soit des réponses à un exercice, puissent revenir à ce sujet chez eux ou au CDI via un smartphone ou un ordinateur. Et puis, dans le cadre là du fonctionnement distanciel, présentiel, pour les élèves qui ne sont pas présents à certains cours, lorsqu'ils sont tenus de rester chez eux, je mets aussi sur le Padlet des petites pastilles audio dans lesquelles j'explique en 5-10 minutes l'essentiel du cours ou les principales consignes pour les exercices à faire pour la semaine, par exemple.
Est-ce que vous avez été formé dans le cadre de votre métier à aider les élèves 10 ?
Absolument pas. Et en fait, c'est parce qu'on voyait arriver il y a quelques années de plus en plus d'élèves 10, dysorthographiques, dyslexiques, dysgraphiques aussi. Eh bien, on voyait ces élèves arriver en plus grand nombre dans nos établissements, qu'on a demandé au sein de notre établissement une formation, ce qu'on appelle un FIL, donc une formation dans l'établissement pour des professeurs volontaires. Et ce sont donc deux formateurs deux professeurs formateurs spécialisés dans l'accompagnement des 10 qui sont venus nous rencontrer et nous donner quelques éléments d'accompagnement de ces élèves avec, je crois, 2 jours complets de formation.
Quelles sont vos connaissances théoriques sur les troubles des 10?
Les connaissances théoriques, je n'en ai pas ou quasiment pas. En fait, j'en ai pris connaissance lors de ce stage de formation, lorsque les formateurs nous ont fait faire quelques exercices qui nous permettaient de vivre les situations comme si on était, par exemple, un élève dyslexique. Donc la difficulté, par exemple, pour déchiffrer un texte, pour le lire. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pris conscience effectivement de la somme de travail et de concentration que pouvait représenter l'effort d'adaptation réalisé par des élèves 10 en classe. Et voilà, donc mes connaissances. Après, j'ai lu de ci, de là des articles indiquant que si aujourd'hui il y avait davantage d'élèves bénéficiant de ces accompagnements, c'est pas parce qu'a priori il y avait une génération spontanée de 10 qui était arrivé en France dans les années 2000. Hein. C'est plutôt parce qu'aujourd'hui, on avait, justement grâce aux travaux réalisés dans les sciences cognitives et autres, eh bien, plus d'outils, d'éléments pour repérer et pour diagnostiquer ces élèves.
Pensez-vous que l'habitude des aménagements peut être un handicap pour les élèves 10 dans le supérieur?
Ah, ça, c'est une... C'est une inquiétude qu'on peut avoir, effectivement. Par exemple, ce que je peux donner comme élément d'adaptation et que j'ai tiré des journées de formation que nous avions eues au lycée il y a quelques années, c'est l'utilisation d'une police de caractère qui convient mieux aux élèves dyslexiques. Par exemple, moi, j'ai adopté et généralisé l'utilisation de la police Verdana. Bon, eh bien, je sais. Et puis, il y a aussi les aménagements, les tiers-temps. Et ça, je sais que dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur, ça n'est pas le cas. Donc oui, ça peut être une source d'inquiétude. On peut se dire, bon, on a quand même essayé d'accompagner ces élèves jusqu'au bac, en leur proposant ces aménagements, un peu plus de temps pour réaliser un devoir ou alors une adaptation du point de vue de la notation, si l'élève n'a pas pu avoir le temps supplémentaire, les polices de caractère, le fait de mettre peu d'éléments distracteurs quand on explique quelque chose. Bon, ça, est-ce que ensuite les collègues de l'enseignement supérieur ont les moyens, le temps et la formation pour proposer ces aménagements, je n'en suis pas sûr, tout comme dans la vie professionnelle qui viendra après les études supérieures. Donc oui, ça c'est une inquiétude, et en même temps je me dis, ben, on a accompagné ces élèves voilà, jusqu'au baccalauréat, et bon, ils ont de ce fait pu développer aussi quelques compétences, et j'espère que ça les aidera pour l'enseignement supérieur.
Bon, bah merci, c'est la fin. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Ce que je veux ajouter, c'est le fait que les journées de formation, les 2 journées de formation qu'on avait eues, avaient été quand même un élément de prise de conscience pour nous, enseignants, qui avions participé à cette formation, pour se dire quand même, voilà, on ne peut pas tout régler, mais il y a quand même des choses que l'on peut faire pour essayer d'accompagner ces élèves. Et on peut le faire en disant aussi à ces élèves de faire attention, c'est-à-dire qu'ils ne se servent pas, mais c'est rarement le cas, mais qu'ils ne se servent pas de leurs difficultés comme d'un alibi pour ne pas travailler. Mais ça, honnêtement, je l'ai rarement rencontré. Et puis, quand c'était le cas, bah, on s'expliquait avec l'élève pour lui dire, écoute, nous, on met en place des aménagements. À toi de jouer le jeu et de faire le maximum d'efforts. Ne va pas toujours t'abriter derrière des difficultés qui sont réelles, hein, que l'on reconnaît, pour ne pas fournir les efforts. Voilà. Mais du coup, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que c'était important de prendre en compte les difficultés de ces élèves. C'est pas facile. C'est pas facile quand on est dans une classe de 35 élèves. Et je le redis, j'ai très peu de connaissances théoriques sur les dyslexies, dysorthographies, etc. Mais quand même, savoir que ça existe, voir apparaître ça officiellement sous forme d'aménagement, de PAI, etc., c'est un élément important pour qu'on n'oublie pas de tenir compte des difficultés de ses élèves dans le but de les accompagner vers la réussite. Voilà.
Bah, merci beaucoup. Bonjour, je suis Sylvie de Almeida, je suis professeure de mathématiques au lycée depuis une douzaine d'années maintenant. À l'heure actuelle, j'ai les secondes 4 et j'ai aussi les mathématiques expertes.
D'abord, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous savez des 10 ?
Alors, je sais qu'il n'y a pas des 10, mais il y a tout un tas de dyslexie, de dyscalculie, de tout un tas de sortes de problèmes liés aux apprentissages. Voilà. Donc, je sais que c'est très divers et varié. Et d'ailleurs, c'est tellement divers et varié que moi, je considère en fait chaque élève dans son individualité pour essayer de comprendre ses difficultés à lui. Parce que je, d'expérience, en fait, je sais que souvent, c'est très différent d'un élève à l'autre.
Est-ce que vous proposez des aménagements pour les élèves 10, du coup ?
Alors, en tant que professeure principale, je prends toujours le temps, en début d'année, de travailler sur les aménagements de chaque élève. Alors, nous avons la chance d'être en lycée. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus compliqué en école maternelle ou à l'école primaire. Mais moi, je pars du principe que les élèves se connaissent bien, qu'ils connaissent bien leurs besoins, qu'ils savent ce qui les aide, en fait, et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et donc, je prends un temps en début d'année pour discuter avec eux de ce dont ils ont besoin. On se met d'accord. Puis ensuite, on laisse passer 2-3 semaines et on réinterroge ces besoins parce que des fois aussi, au collège, il y avait des besoins, et puis au lycée, peut-être de nouveaux besoins peuvent arriver, et donc du coup, il me paraît essentiel aussi, voilà, au bout de 2 ou 3 semaines, de voir s'il y a des adaptations à faire et de revenir vers les élèves.
Est-ce que vous avez été formée dans le cadre de votre métier à aider les élèves 10 ?
Alors, très tardivement, alors moi je suis une vieille professeure, hein. J'ai commencé en 1995, voilà, les élèves n'étaient pas nés, hein. Les élèves actuels n'étaient pas nés, c'était il y a très très longtemps, et à ce moment-là, en fait, il n'y avait pas cette réflexion sur les aménagements. J'avais eu des élèves handicapés physiques, j'avais eu aussi des élèves malentendants, j'ai eu un élève malentendant, donc de ce point de vue-là, si, il y avait des aménagements pour ces élèves-là, mais pour tout ce qui est dyslexie, dyscalculie, etc., je n'ai pas le souvenir, voilà, qu'avant les années 2005-2010, on avait cette logique d'aménagement. Donc voilà, c'est relativement récent par rapport à ma carrière. Donc, pour ces élèves qui avaient ces difficultés, je me souviens voilà, de les avoir encouragés, de les avoir peut-être fait un certain nombre de choses peut-être un peu particulières, mais par exemple sur les évaluations, il n'y avait pas d'aménagement. Enfin, je ne me souviens pas qu'en début de ma carrière, il y avait des aménagements possibles. Après, il y a eu toute une période en fait, où j'ai fait un peu comme j'ai pu, parce que les choses n'étaient peut-être pas très formalisées. Et voilà, j'ai peut-être improvisé et je n'ai peut-être pas suffisamment compris quelles étaient les difficultés des élèves. J'avais une méconnaissance de ce que c'était vraiment, n'étant pas moi-même concernée. Et puis, j'ai personne dans ma famille qui est concernée. Donc, je faisais des choses, mais sans forcément bien comprendre. Et puis, M. Azam a organisé une formation
il y a quelques années à laquelle j'ai participé. Et donc les formateurs étaient vraiment très bien. On a fait des journées de formation qui étaient vraiment très intéressantes et ça a vraiment bousculé mes perceptions. Donc des choses que je faisais peut-être de façon très intuitive, pas très formalisée, ça m'a permis de vraiment faire les choses de façon plus précise, en respectant un protocole, en m'emparant davantage de tout ce qui est nécessaire pour bien comprendre ces difficultés.
Est-ce que vous pensez que l'habitude des aménagements peut être un handicap pour les élèves dans le supérieur ?
Ben non, parce que dans le supérieur, je pense qu'aussi ces aménagements peuvent se poursuivre. C'est-à-dire qu'on a trop l'idée peut-être que le supérieur, c'est quelque chose qui est déshumanisé, désincarné, qu'à partir du moment où il y a une grande masse d'élèves, eh bien l'individualisation n'est pas possible. Moi, je pense qu'à partir du moment où justement, on essaye de donner aussi aux supérieurs cette responsabilité d'accompagner les élèves qui ont des aménagements, quelque part aussi, on fait bouger un certain nombre de lignes. Le supérieur doit aussi s'emparer de ça. Alors, je ne dis pas que ça doit être facile pour tous les élèves d'obtenir des aménagements, mais je dis qu'il ne faut pas qu'ils baissent les bras, parce que s'ils ne les demandent jamais, en fait, jamais personne ne les aura.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Alors en fait, je voudrais bien ajouter quelque chose parce que je me suis aperçue en faisant ces aménagements et ces adaptations pédagogiques qu'en réalité, je ne rendais pas service seulement qu'aux élèves qui ont des aménagements, que cette réflexion sur comment est-ce qu'on peut individualiser un petit peu les choses, elle m'a permis peut-être de mieux accompagner d'autres élèves aussi qui ont d'autres difficultés, qui n'ont pas forcément des aménagements, mais par exemple, à certains moments de l'année où on fait les choses un peu différemment pour eux que pour les autres. Donc, en réalité, cette réflexion qu'on a pour les élèves qui ont des difficultés de cet ordre-là, eh bien, en fait, elle sert à tout le monde.
Muriel Vernu, je suis proviseure adjointe au lycée Aragon Picasso, en charge plus particulièrement des élèves de la section d'enseignement professionnel.
Alors d'abord, je voudrais savoir si vous avez été formée dans le cadre de votre métier pour aider les élèves 10.
Alors oui, j'ai eu quelques formations. Donc c'est quand j'étais enseignante en fait que j'ai eu des formations pour accompagner les 10, plutôt les dyslexies, des formations qui sont plutôt sur le volontariat, c'est-à-dire c'est plutôt nous qui avons on a essayé de postuler à des formations pour pouvoir accompagner les 10. Mais c'est surtout de la dyslexie, et c'est-à-dire qu'on ne prend pas forcément en compte les autres 10, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, etc. Ça, on est beaucoup moins sensibilisé.
Quelles connaissances théoriques vous avez des 10, du coup ?
Ouh là là, mais c'est, c'est une question difficile. Alors, c'est des troubles du langage écrit sur la dyslexie, et donc ça crée des difficultés spécifiques sur les apprentissages. Ça peut créer de la lenteur, ça peut créer des confusions ou des choses comme ça. Mais par contre, ça, c'est jamais un problème d'intelligence. Donc ça nécessite des outils différents pour faire acquérir les mêmes apprentissages, les mêmes connaissances.
Est-ce que vous pensez que l'habitude des aménagements pour les 10 est un handicap pour eux dans le supérieur ?
Ça ne devrait pas l'être, en fait, parce que... ça ne devrait pas l'être, parce que je pense qu'ils doivent pouvoir acquérir des connaissances et choisir leur parcours. Donc, en fait, tous les aménagements devraient aller de soi, quel que soit le type. Ça marche pour les dyslexies, mais ça devrait être la même chose pour un élève en fauteuil, ça devrait être la même chose pour un élève sourd ou peu importe. Maintenant, il peut y avoir, en fait, des métiers spécifiques. qui nécessitent par exemple beaucoup d'écrits ou dont les adaptations ne sont pas complètement là et qui peuvent être difficiles. Et donc, peut-être que des fois, ça peut rendre des parcours plus compliqués. Mais tous les aménagements devraient aller de soi.
D'accord. Du coup, comment le lycée gère-t-il les aménagements ?
Alors, je vais parler pour la section d'enseignement professionnel, hein, pour la CEP. Donc, les élèves, ils ont ce qu'on appelle des PAP, des plans d'aménagement personnalisés, pédagogiques. Ça leur permet, en fait, c'est en fait une liste d'aménagements qui sont possibles. Et puis, le médecin scolaire, en fait, définit le type de difficulté qu'a l'élève. Et puis, on traduit en aménagement dont l'élève a besoin, qui peut être, par exemple, moins copier ou réduire le nombre d'exercices ou pas pénaliser l'orthographe, etc. Il peut y avoir différents champs. C'est signé avec le professeur principal qui diffuse l'information au niveau de l'équipe pédagogique qui est à l'élève et les enseignants dans leur cours mettent en œuvre ces aménagements.
Est-ce qu'ils sont obligatoires pour les professeurs, les aménagements ou pas ?
Oui, parce qu'en fait, c'est du droit commun, c'est signé par un médecin, c'est un aménagement. Donc, normalement, la loi, elle dit qu'il le faut. Maintenant, on est sur, dans l'enseignement professionnel, on est aussi avec des enseignants qui sont très sensibilisés à des élèves qui ont des parcours parfois particuliers. On a aussi des élèves qui sont peu à l'aise avec la langue française ou des choses ou d'autres types de choses et qui prennent en compte effectivement les besoins spécifiques de l'élève et les aménagements pour les dyslexies font partie des choses spécifiques pour répondre aux besoins des élèves. Et puis, ce qui peut être un aménagement spécifique pour être un 10 peut aussi servir à d'autres élèves par rapport à des difficultés qu'ils ont. Et en fait, c'est plutôt des choses qui font grandir tout le monde.
Au niveau de l'éducation nationale, qu'est-ce que vous penseriez qui ne va pas au niveau de ça ?
Ou qui va bien, parce qu'en fait, quand j'ai commencé, les PAP n'existaient pas. Donc, il y a des choses aujourd'hui qui sont... Il y a une chose qui est importante, hein, c'est la loi de 2005 sur l'école inclusive. Donc, ça veut dire prise en compte des besoins des élèves, alors qu'ils soient 10, qu'ils soient porteurs de handicap, qu'ils soient gens du voyage, qu'ils soient en fait des parcours particuliers et la nécessité vis-à-vis de la loi de prendre en compte leurs spécificités et à nous de nous adapter et non l'inverse. Alors après, je crois qu'aujourd'hui, là, je pense que c'est quelque chose dans les mentalités qui s'acquiert de plus en plus et qui est souvent acquise. Après, comme parfois dans l'éducation nationale, on manque un peu de moyens. Et voilà, donc ça nécessiterait des moyens pour pouvoir former les enseignants, pour pouvoir développer des supports, pour pouvoir travailler avec les orthophonistes. Donc voilà, ça nécessiterait un plan d'envergure un peu plus important pour qu'on puisse vraiment l'ancrer d'une façon normale et courante dans les pratiques pédagogiques.
Eh bien, merci, c'est la fin. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Non, c'était toujours comme toujours avec la radio, c'est toujours un beau moment. Ça me permet de rencontrer des nouveaux élèves que je ne connaissais pas avant. Et donc, c'est toujours un échange bien agréable.
Merci.
Merci à
Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter ?
Bonjour, oui. Alors, je suis Madame Voileau, je suis le proviseur adjoint sur la voie générale et technologique.
Est-ce que vous avez été formée dans le cadre de votre métier pour savoir qu'est-ce que c'était les troubles 10 ?
Alors, pas en formation initiale, c'est-à-dire on n'a pas appris ça pendant les 2 ans où on a été formée, mais j'ai ensuite suivi un stage quand j'étais principale de collège pour me former à ces troubles et mieux les comprendre et voir comment mettre les aménagements en place pour les élèves.
Du coup, quelle est votre connaissance sur les troubles 10 ?
Oh bah, ma connaissance, elle se limite aux différentes formes, mais c'est très, très succinct, en fait, parce que c'est plutôt une partie médicale, mais ma connaissance, elle est que ces élèves-là... Que c'est une maladie à vie, voilà, qu'on peut éventuellement compenser grâce à une rééducation avec des orthophonistes, de ce que j'en sais, des fois des ergothérapeutes pour la dyspraxie, et que c'est... Comme c'est quelque chose qu'on a en soi et qu'on garde tout le temps, bah, soit on apprend à compenser, à faire avec, soit on n'y arrive pas. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, ça donne des élèves qui ont besoin de plus de temps que les autres pour apprendre, plus de temps pour écrire et qui n'ont pas forcément les mêmes besoins. Il y en a qui auront besoin de plus écouter, d'autres qui auront besoin de noter à l'ordinateur. Voilà, ça va dépendre en fait de chaque élève. On ne peut pas mettre, je pense, les élèves dans des cases. Et c'est pour ça que le stage que j'avais suivi et j'avais imposé à tous mes enseignants de le suivre aussi pour mieux comprendre et sortir du cliché que les mauvais élèves sont forcément des cancres sans chercher à comprendre pourquoi. Parce que moi, j'ai grandi dans une époque où on ne prenait pas du tout en compte ces problèmes-là. Et je pense qu'il y a des élèves qui souffraient de dyslexie, qui ont beaucoup souffert, parce qu'ils ont dû être relégués au fond de la classe, et catalogués cancres ou irrécupérables, quoi. C'est fichu, et voilà. Et du coup, orientés prématurément dans des voies qui ne les concernaient pas forcément. Et c'est quelque chose qui est apparu, je dirais, il y a 10-15 ans, et qui a vraiment pris un essor. Alors au départ, on disait que, enfin dans mon milieu professionnel, on disait que c'était un petit truc un peu bourgeois, quoi. C'était la dernière mode de se faire détecter. Non mais si, c'est vrai. Hein. Et moi je pense pas. Moi je pense que c'est parce que maintenant on sait ce que c'est et qu'on sait le reconnaître que du coup. On en voit plus, parce que c'est pas qu'il y a eu tout d'un coup une expansion d'élèves dyslexiques, c'est juste que tout d'un coup, on s'est mis à les diagnostiquer et à les accompagner.
Est-ce que vous pensez que l'habitude des aménagements peut être un handicap pour les élèves dys dans le supérieur ?
Non. Ce que je pense, c'est que il faut être prudent, en effet, avec les aménagements, surtout au collège. Alors, les aménagements, moi, je suis pour. Après, ce qu'il ne faut pas, c'est être trop laxiste avec la notation. Parce qu'il ne faut pas qu'on leurre non plus les élèves et leurs parents en faisant croire que bah, l'élève, il a 14 de moyenne et qu'il va pouvoir aller au lycée sans difficulté. Ce n'est pas vrai. Parce que s'il a 14, c'est parce qu'il a des aménagements. Mais dans la ville, on n'aura pas toujours. Et j'ai vu des élèves s'effondrer au lycée sans comprendre pourquoi. Voilà, c'est une mauvaise préparation. Après, les lycéens qui s'en sortent, ils ont des aménagements et je pense que c'est bien pour les aider à accéder au supérieur. Il y a toujours une inquiétude, en effet, de s'ils seront accompagnés dans le supérieur. Mais bon, moi je dis, il y a des métiers pour tout le monde. Hein. Un de mes meilleurs amis est médecin et il est dyslexique. Hein. On se moquait de lui quand on était au lycée. Parce qu'il faisait 3 tonnes de fautes et on pensait qu'il ne ferait jamais médecine. Et bah si, donc c'est possible. Bien sûr, il faut choisir son établissement supérieur. À l'université, il y a des aménagements prévus. Dans certains établissements privés, il n'y en a pas. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on fait un BTS, il y aura forcément des aménagements.
Est-ce qu'il y a des aménagements particuliers dans certains établissements ?
Bah, si c'est un étudiant qui va en BTS, les BTS sont dans des lycées. Si c'est un BTS public dans un lycée public, il aura droit aux mêmes aménagements qu'au lycée. Temps supplémentaire pour le bac, temps supplémentaire pour préparer l'oral, ou pour passer l'oral, ou les deux. Le même type d'aménagement. Ou du matériel adapté, voilà. Si c'est à l'université, ou un AVS. Mais bon, là, c'est autre chose. Si c'est à l'université, il y a aussi possibilité d'avoir un temps supplémentaire aux examens. Il y a aussi une maison qui s'occupe de ça, un service. Voilà. Après, par contre, dans tout ce qui est école supérieure, école de commerce, école d'ingénieur, il n'y a pas.
Et du coup, comment le lycée y gère les aménagements des élèves 10?
Alors, en début d'année, on fait passer une information aux familles pour les élèves qu'on ne connaît pas, pour savoir s'ils ont besoin d'aménagement et auquel cas nous faire passer un bilan orthophonique ou le PAP du collège. Et ensuite, on rencontre la famille avec le prof principal et puis on se met autour de la table et puis avec l'élève et on discute et on contractualise et on signe. Voilà. Quand, là, avec le Covid, on fait beaucoup par mail et, ou téléphone. On ne fait plus de réunions. Si c'est un élève qu'on avait déjà parce qu'en seconde, il est connu et qu'il passe en première ou en première et passe en terminale, on recontacte juste la famille pour savoir si on poursuit l'aménagement. S'il a besoin peut-être d'être revu, réadapté, ou s'il y a un nouveau bilan. Voilà. Et ces élèves-là, moi, je les suis particulièrement parce que comme je m'occupe de demander les aménagements aux examens, je suis en contact avec eux quand ils sont en première et qu'ils s'inscrivent pour la première fois au bac ou quand ils sont en terminale. Parce qu'il y a un dossier à part pour demander un tiers-temps au bac ou de pouvoir utiliser son ordinateur.
Et ben voilà, merci, c'est terminé. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Ben non, je crois pas.
Merci.
Absent friends, here's to them, and happy days we thought that they would never end. Here's to absent friends, little Jean Seberg seems so full of life, but in those eyes such troubled dreams. Oh, little Jean, Woodbine Willie couldn't rest until he'd given every bloke a final smoke before the killing. Child, he fought and won acceptance from the